Chers auditeurs et chères auditrices, bonjour. Nous continuons notre première série concernant croire. Comme le dit l'Écriture sainte, croire comme le dit l'Écriture sainte. Nous arrivons à l'étude numéro 4. Et le titre sera « Les réponses de Dieu aux questions de l'homme ». Dans l'étude présente, plutôt que j'ai présenté jusqu'à présent, donc les chiffres 1, numéro 1 jusqu'au numéro 3, eh bien, il peut vous sembler qu'aujourd'hui, certaines choses se répètent. Or, si vous avez l'habitude de lire la Bible, vous verrez que Dieu répète certaines choses importantes plusieurs fois, parce qu'il sait que nous sommes des êtres humains qui peuvent oublier, moi le premier. Et donc, il est des fois important, avec une phraseologie différente, de répéter certains passages un peu différemment, mais pour bien comprendre ce qu'on veut faire comprendre à ceux qui écoutent. Or, il y a des passages qui doivent absolument être expliqués plus en profondeur. Vous savez, on ne peut pas passer sur certaines choses à la légère, en haussant les épaules. Cela est très important pour éviter tout malentendu. Du reste, je serai un jour responsable, même si vous ne me croyez pas, si j'ai été superficiel dans ces études. Donc veuillez s'il vous plaît noter les citations bibliques, c'est toujours important, toujours. Où le péché s'est-il produit la première fois? Le premier péché a eu lieu au ciel, oui, lorsque Lucifer, le chef des anges, a souhaité prendre la place de Dieu. Il fut alors chassé du ciel et il est devenu connu sous le nom de Satan. Ésaïe chapitre 14, versets 12 à 15. Du reste, vous pouvez trouver dans Internet 3xW Bible explique en un seul mot.ch. Et là, vous pouvez trouver toutes sortes de sujets très approfondis, en parenthèse, puisqu'on parle de Satan, également sur le ciel et sur l'ennemi de Dieu, donc Lucifer. Chers amis, pourquoi Dieu a-t-il permis que le péché entre dans le monde? Voilà une question délicate. Dieu a créé l'homme comme un agent moral absolument libre, avec le pouvoir de choisir entre le bien et le mal. Il souhaitait que ces créatures choisissent de l'aimer et de l'adorer volontairement et désirant le bien plutôt que le mal. Mais si une créature a le pouvoir de choisir le bien, vous comprendrez qu'elle doit, par nécessité, avoir également le pouvoir de choisir le mal. Genèse chapitre 2, versets 15 à 17. Pas plus tard que hier, il y a eu un hold-up assez conséquent. Ils ont séquestré la gérante de la banque et ils l'ont si maltraitée qu'elle n'a pas pu faire autrement que obtempérer, je ne sais pas comment on dit en français, oui, enfin, de répondre à leurs exigences. Oui, aujourd'hui, tous les jours, il y a des attentats. Tous les jours, il y a des meurtres. Et le pire est à venir. Que serait-il arrivé à Adam s'il n'avait pas péché? Eh bien, il aurait joui d'une longue vie dans le jardin d'Éden, selon la Genèse, chapitre 2, verset 17. Qu'est-il arrivé à Adam lorsqu'il a péché? Premièrement, il est devenu spirituellement mort envers Dieu. Deuxièmement, il est devenu sujet à la souffrance physique, à la maladie et à la mort. Troisièmement, il a perdu son innocence et il est devenu impie et profane, coupable et perdu, c'est-à-dire un ennemi de Dieu et un étranger, selon la Genèse chapitre 3 verset 7 et Éphésiens chapitre 2 verset 1 à 3. Et quatrièmement, s'il mourait dans son péché, il souffrirait d'une ruine éternelle. Comme le péché d'Adam, oui, comment le péché d'Adam a-t-il affecté ses enfants, ceux qui sont nés après lui? Eh bien, sa nature pécheresse a été transmise à toute sa postérité. Il est dit comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort a passé à tous les hommes en ce que tous ont péché. Romains chapitre 5, verset 12. Notez également les versets 13 à 19. Voulez-vous dire que nous sommes tous nés pécheurs dans le monde ? À cause du péché d'Adam. Eh bien oui, Adam ne pouvait engendrer que des enfants ayant la même nature que lui. Et cette nature-là était, hélas, pécheresse. Il nous faut donc apprendre à tous les enfants à faire le bien. Mais ils savent comment faire ce qui est mal, ça va tout seul. Sans que cela leur soit enseigné. Ça, vous pouvez me croire, et si vous êtes des parents, vous l'avez déjà constaté. Notez le psaume, chapitre 51, verset 5. Comme illustration de ce principe, un moule en métal, pour préparer par exemple de la gelée, elle donne sa forme à tous les desserts gélatineux, ou aux salades qui sont préparées dedans. Or, si vous laissez tomber ce moule en métal et qu'il soit alors un peu cabossé, eh bien, tous les moules et gélatines à venir montreront les conséquences de la chute. Bien. Semble-t-il juste que la nature pécheresse d'Adam nous ait été transmise à tous? Voilà une question délicate et on peut évidemment comprendre que ça a l'air pas juste. Adam a agi en tant que représentant de la race humaine. Puisque nous sommes tous créés en tant qu'agents moraux libres, peut-être aurions-nous tous fait finalement la même chose qu'Adam de toute façon. Le bien existe-t-il chez tous les hommes? Voilà encore une question. Eh bien, cela dépend si vous l'envisagez d'après le point de vue de Dieu ou d'après le point de vue de l'homme. Dieu trouve en l'homme aucun bien qui pourrait l'aider à lui obtenir une place au ciel. En ce qui concerne la droiture et les aptitudes pour entrer au ciel, Dieu dit qu'il n'y en a aucune. L'homme est totalement perverti. Ésaïe chapitre 1, verset 6. Mais Dieu trouvera-t-il à critiquer une personne qui n'a pas commis les terribles péchés tels que le meurtre, l'ivrognerie, d'immoralité et ainsi de suite? Dieu ne voit pas seulement ce qu'une personne a fait, mais surtout ce qu'elle est en elle-même. Ce qu'est un homme est bien pire que tout ce qu'il a pu faire. Voyez-vous, une vie remplie de pensées malsaines, une haine ressentie envers une autre personne, un regard concupiscent, ce sont là des péchés terribles aux yeux de Dieu. Notez s'il vous plaît, Saint Matthieu chapitre 5, versets 27, 28, ainsi que Saint Marc chapitre 7, versets 21 à 23, Romains 8, versets 7 et 8, il sépare l'homme de Dieu. Le péché sépare l'homme de Dieu. Notez Ésaïe, chapitre 59, versets 1 et 2. Et qu'en est-il des païens qui n'ont jamais entendu l'Évangile, comme par exemple dans certains pays bien trop éloignés pour être contactés par des missionnaires, etc. Voyez-vous, Dieu s'est révélé à toute l'humanité dans la création, ainsi que dans la conscience. Ils ont reçu une conscience, comme vous et moi. Si un païen vit en accord avec cette connaissance, Dieu lui enverra une lumière supplémentaire afin qu'il puisse être sauvé. Mais le païen, si le païen a rejeté la connaissance du vrai Dieu et qu'il a adoré des idoles de bois et de pierre par préférence, il est donc sans excuse. Notez Romains, chapitre 1, verset 20. Car sans Christ, le païen est perdu. Et c'est pourquoi les missionnaires chrétiens parcourent le monde avec l'Évangile, au péril souvent de leur vie. Quelle est l'attitude de Dieu envers le péché? Parce que Dieu est saint, il ne peut pas approuver ou excuser le péché, parce qu'il est entièrement juste. Il doit donc punir le péché chaque fois qu'il le trouve. Il a décrété que les gages du péché, c'est la mort. Romains chapitre 6, verset 23. Quelle est l'attitude de Dieu envers le pécheur? Eh bien, Dieu aime les créatures qu'il a faites, tandis qu'il n'aime pas le péché. C'est ça la différence. Mais il aime malgré tout le pécheur. Romains chapitre 5, verset 8. Quel est le désir de Dieu par rapport à tous les pécheurs? Eh bien, Dieu désire que tous les pécheurs soient sauvés, c'est son désir. Il ne veut pas qu'ils périssent. Notez la deuxième épître de Pierre, chapitre 3, verset 9. Une autre question. Quel problème fut soulevé par l'entrée du péché dans le monde? Eh bien, il souleva le problème de savoir comment Dieu pourrait sauver des pécheurs impies, c'est-à-dire perdus, et être encore juste en faisant cela. Romains 3, verset 26. Et pourquoi cela est-il un problème? Voyez-vous, l'amour de Dieu désirait le salut des pécheurs. Ézéchiel 33, verset 11. Pourtant, à cause de sa sainteté, il ne pouvait pas permettre que des créatures pécheresses entrent dans son ciel. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 9 et 10. En fait, sa justice exigeait que tous les pécheurs doivent mourir comme conséquence de leur péché. Hébreux chapitre 9, verset 27. Le problème alors fut le suivant. Comment l'amour de Dieu pouvait-il être comblé sans violer sa sainteté et sa justice? Oui, que se serait-il passé si Dieu n'avait absolument rien fait? Eh bien, tous les pécheurs auraient péri en enfer. Psaume 9, verset 17. Alors, Dieu n'est-il pas trop bon pour envoyer les hommes en enfer? On dit que Dieu est amour, donc c'est pas très gentil de sa part. Voyez-vous, Dieu est bon, mais il est également juste et saint. Aucun de ses attributs ne peut triompher aux dépens de l'autre. Son amour ne peut être exercé que d'une manière juste et sainte. Comment Dieu pouvait-il résoudre ce délicat problème? Eh bien, il ne pouvait le résoudre qu'en trouvant un substitut qui allait mourir à la place du pécheur coupable, à la place de toi qui écoutes, et à ma place. Quelles sont les conditions qu'un tel substitut devait remplir? Eh bien, premièrement, il fallait qu'il soit un homme autrement. La substitution n'aurait pas été juste. Il fallait donc qu'il soit comme vous et moi. Ensuite, il devait être un homme absolument sans péché. S'il n'avait pas été sans péché, il aurait dû mourir pour ses propres péchés. Troisièmement, il doit être Dieu. Puisque le substitut doit être capable d'écarter un nombre illimité de péchés, et cela d'un nombre illimité de gens. Finalement, il doit vouloir mourir pour les pécheurs. Or, un tel substitut pouvait-il vraiment être trouvé dans l'univers? Eh bien oui. Dieu a trouvé un substitut qui remplissait toutes ses conditions, et cela dans la personne de son Fils unique, le Seigneur Jésus-Christ. Notez Ésaïe, chapitre 53, versets 4 et 5. L'œuvre de Christ. Quelle est l'œuvre de Christ? Jésus était-il vraiment homme? Eh bien oui, il est né comme un bébé dans une étable à Bethléem et il a grandi à Nazareth et il a achevé son ministère à Jérusalem. Était-il sans péché? Voici donc une question délicate. Était-il sans péché? Car vous et moi, nous ne le sommes pas. Mais lui, oui, car il est né de la Vierge Marie, et ainsi il n'a pas hérité du péché d'Adam. Il ne connut aucun péché, il n'a donc pas péché, il n'y avait en lui aucun péché. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, 1er Épître de Pierre chapitre 2, verset 22, et 1er Épître de Saint Jean chapitre 3, verset 5. S'il vous plaît, notez les indications bibliques. Jésus est-il Dieu? Eh bien oui, Jésus est tout aussi véritablement Dieu qu'il est véritablement homme. Saint Jean, chapitre 1, verset 1, chapitre 10, verset 30, Colossiens, chapitre 2, verset 9, et Hébreux, chapitre 1, verset 8. Jésus voulait-il mourir comme substitut pour les pécheurs? Eh oui, car Jésus exprima une bonne volonté totale à faire la volonté de son Père, et cela même si cela devait signifier la mort. Notez psaume 40, verset 7, et Saint Jean, chapitre 10, verset 17 et 18. N'aurions-nous pas pu être sauvés par la vie sans péché de Jésus? Non. Non, car nos péchés n'auraient jamais pu être effacés par sa vie sans péché. Saint Jean, chapitre 12, verset 24. Pourquoi donc devait-il mourir Jésus? Voyez-vous, nos péchés méritaient la mort éternelle. Il, Jésus-Christ, devait donc porter le châtiment pour nous tous, pour toi qui écoutes, comme pour moi. Il devait donc porter le châtiment pour nous tous dans son corps sur la croix. 1er Épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Y avait-il une condition spéciale à remplir par rapport à la mort du substitut? Eh bien oui, c'est son sang qui devait être versé, son sang précieux. 1er Épître de Pierre, chapitre 1, verset 19. Pourquoi cela était-il nécessaire? Eh bien, Dieu avait décrété que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Hébreux chapitre 9, verset 22. Quelle est donc l'importance du sang? Le sang, c'est la vie de la chair. Or, l'effusion du sang de Christ indiquait l'offrande de sa vie en tant que substitut pour les pécheurs. Lévitique chapitre 17, verset 11. Que s'est-il passé en fait sur la croix? Eh bien, pendant les 3 heures de ténèbres, Dieu a fait que tous nos péchés puissent être placés sur le Seigneur Jésus. Jésus subit donc la mort que ses péchés méritaient, que tous nos péchés, il faut bien le dire, méritaient, et non pas les siens, mais les nôtres. Saint Luc chapitre 23, verset 44. Que cria Jésus à la fin de ces 3 heures? Eh bien, il a crié « C'est accompli ». Une version allemande dit « Maintenant, c'est accompli ». Saint Jean, chapitre 19, verset 30. Que voulait-il dire par là? Mais il voulait dire que l'œuvre de la rédemption avait été achevée, que tout ce qui était nécessaire au salut des pécheurs avait donc été fourni. Hébreux, chapitre 10, verset 14. Qu'est-il arrivé à Jésus après sa mort? Comme vous le savez, son corps fut enseveli dans un tombeau, mais le troisième jour, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, selon Saint Luc, chapitre 24, versets 1 à 7, et Saint Jean, chapitre 19, verset 42. Pourquoi était tout cela nécessaire? Pourquoi la nécessité de la mort de Jésus? Eh bien, Dieu indiqua qu'il était pleinement satisfait de l'œuvre de son Fils en le ressuscitant des morts. Romains 4, verset 25. Jésus est-il ressuscité des morts dans un corps réel? Eh bien oui. Et oui, son corps était vraiment un corps d'os et de chair. Saint Luc 24, verset 39. En dehors de la résurrection, les hommes pouvaient-ils être sauvés? Absolument pas. La résurrection était donc absolument nécessaire pour le salut des autres, pour le salut de nous tous. 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 14 à 19. Que s'est-il passé après la résurrection? 40 jours plus tard, le Sauveur retourna au ciel, où il fut honoré et glorifié par Dieu le Père. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Ensuite, ça c'est important, il envoya le Saint-Esprit sur terre pour annoncer la nouvelle merveilleuse qu'un chemin avait été fourni par lequel les pécheurs, vous et moi, coupables, pourrait être sauvé. Actes, chapitre 2, versets 1 à 4. Quel est donc le chemin du salut? Eh bien, puisque Christ avait achevé l'œuvre de la rédemption, les hommes n'étaient-ils pas alors tous sauvés maintenant? Non, non, non. L'œuvre de Christ est suffisante dans ses capacités et son pouvoir de sauver tous les hommes, mais elle n'est efficace que pour tous ceux qui veulent le recevoir. Ceci peut être illustré par un incident tiré de l'histoire de l'Amérique. En 1930, George Wilson a été jugé par une cour des États-Unis à Philadelphie pour vol et pour meurtre. Et là, il a été condamné à être pendu. Andrew Jackson, le président des États-Unis d'alors, l'amnestia. Mais Wilson refusa la grâce et insista pour qu'il n'y ait pas d'amnestie, à moins qu'il ne l'accepte. L'affaire fut amenée devant la Cour suprême, et le juge John Marshall écrivit la décision suivante. Une amnestie est un papier dont la valeur dépend de l'acceptation de la personne concernée. Il n'est guère supposé qu'une personne condamnée à mort refuse d'accepter une grâce. Par contre, si elle est refusée, alors là, il n'y a pas d'amnistie. Donc George Wilson doit être pendu, et il fut pendu. Vous pouvez trouver cela dans Lee Robert chez Le Sauveur du Pécheur, Nashville, par les éditions Broadman de 1950, pages 35 et 36. Pourquoi Dieu ne sauve-t-il pas tout le monde tout simplement? Mais Dieu désire le faire. Ce n'est pas un Dieu, un boucher. Pas du tout. Il désire le faire. Notez 1 Timothée chapitre 2 verset 4. Cependant, dans la question du salut, il a voulu donner le choix à l'homme. Autrement, il aurait pris au ciel des hommes qui ne voulaient surtout pas y être. Et de ce fait, ce ne serait plus le ciel. Il y a des fêtards à la fête de la bière à Munich qui disaient: nous ne voulons pas du tout aller au ciel, parce que ça rigole pas là-bas. On fait pas la fête et la numba comme on le fait à la fête de la bière ou au carnaval. Voyez, donc, ces gens-là, ils préfèrent autre chose. Alors que doit-il arriver à une personne avant qu'elle puisse aller au ciel? Tout simplement, ses péchés doivent être effacés et elle doit recevoir une nouvelle vie, une nouvelle nature qui va lui permettre de goûter le ciel. Saint Jean, chapitre 3, versets 3 et 5. Et comment une personne est-elle sauvée? Eh bien, tout simplement par la grâce. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par le moyen de la foi. Éphésiens 2, versets 8 et 9. Que signifie la grâce? Eh bien, la grâce est une faveur imméritée de la part de Dieu qui est accordée à des personnes qui méritent exactement le contraire. Nous méritons tous le contraire, moi le premier. Or c'est Dieu qui offre le salut à l'homme comme un don gratuit. Romains 5, verset 8 et Éphésiens chapitre 2, verset 7. Que doit croire une personne pour être sauvée? Eh bien, elle doit croire tout simplement au Seigneur Jésus-Christ. Notez Saint Jean, chapitre 3, verset 16, et chapitre 20, verset 30 et 31. N'est-il donc pas suffisant de croire qu'il y a un Dieu? Ça devrait suffire. Eh bien, non. Voyez-vous, même les démons croient tout cela, et ils tremblent. Mais ils ne sont pas sauvés, ils ne le désirent pas. Jacques, chapitre 2, verset 19. Que signifie croire en Jésus? Cela signifie tout simplement de confesser que vous êtes un pécheur ayant besoin du salut et de le recevoir comme étant votre unique espoir de salut en le reconnaissant comme étant le Seigneur maintenant de votre vie. Romains chapitre 10, verset 9. N'est-il pas suffisant de croire tous les faits historiques à propos de Jésus? Il semble que si on croit les faits historiques, ça devrait être en ordre. Eh bien non. Il se peut qu'une personne croie tout ce que la Sainte Bible dit à propos de Jésus et quand même être toujours perdu. Alors, que faut-il de plus? Voyez-vous, une vraie croyance comprend l'engagement de la personne toute entière. Cela engage votre personne, ma personne, toute entière, pas seulement les doigts de pied. Et tout cela pour être rendu à Jésus en tant que Seigneur et Sauveur unique, pour donner allégeance à notre Roi des Rois. Un homme peut-il avoir la foi et ne pas être sauvé? Certainement. La foi est un objet indigne qui n'apportera que de la déception. Notre foi, elle doit être en Christ, mais pas en nous. Et je répète, notre foi doit être en Christ si nous voulons être sauvés. N'importe qui peut-il le faire? Eh bien, voyez-vous, le salut, il est offert à tous, à vous comme à moi. Mais seuls ceux qui s'avouent être perdus, comme je l'avais compris autrefois, que j'étais totalement perdu, voudront être sauvés. Je pense que vous comprenez cela. Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Qui produit cette conviction de péché dans la vie d'une personne? Eh bien, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Et celui qui produit la conviction de péché, c'est le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui. Saint Jean, chapitre 16, versets 8 à 11. Que peut faire alors une personne qui ne réalise pas du tout qu'elle est pécheur? Ça peut arriver, malheureusement pour elle. Alors elle devrait absolument lire la Sainte Bible. Romains 10, verset 17. Que se passera-t-il alors? Eh bien, elle verra qu'elle est un pécheur et que si elle meurt dans cet état-là, elle ira malheureusement en enfer. Saint Jean, chapitre 8, versets 21 et 24. Et je dis cela même pour ceux qui ont payé leurs impôts. Ça, c'est une boutade. Alors sera-t-elle sauvée lorsque elle verra ceci? Lorsque elle lira cela? Pas encore. Elle doit ensuite se repentir de ses péchés. C'est ce que j'ai dû faire. Et recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme son Sauveur absolu, comme mon Sauveur et Seigneur. Proverbe, chapitre 28, verset 13, et Acte, chapitre 16, verset 31. Être sauvé simplement par la foi, cela semble être un peu facile, non? Cela peut, bien entendu, paraître trop facile. Mais c'est l'unique voie de Dieu de salut. Bien qu'elle puisse nous sembler facile, nous devrions nous rappeler que ce fut pour Dieu une transaction très, très coûteuse. Elle lui a coûté la mort de son Fils unique. Ou si c'est un salut facile, mais pas du tout au rabais. Ésaïe chapitre 1, verset 18. Pourquoi Dieu a-t-il décidé que le salut serait accordé sur le fondement de la foi? La raison est que croire en lui, c'est de croire en lui, en Jésus-Christ. C'est l'unique chose convenable que tous les gens normaux peuvent faire. Et même un enfant peut croire cela. Mais y a-t-il une certaine œuvre qu'une personne doit faire pour être sauvée? Non, il n'y a aucune œuvre qu'une personne puisse faire, car Christ a accompli le travail sur la croix du calvaire. Tout ce que le pécheur a à faire, c'est de croire. Notez Tite, chapitre 3, verset 5. C'est contre la fin de la Bible. Bon, n'est-ce pas une contradiction tout cela? Vous dites qu'il n'y a rien à faire. Tout ce que vous avez à faire, c'est simplement de croire. Il n'y a donc rien que vous puissiez faire pour gagner ou pour mériter l'approbation de Dieu. En effet, il n'y a rien que vous puissiez faire, vous, qui vous aide à obtenir une entrée dans le ciel. Romains, chapitre 4, versets 4 et 5. Voyez-vous, la foi est un acte qui n'est pas méritant ou mérité. Une personne ne peut pas être fière parce que simplement elle croit au Seigneur. Qu'y a-t-il de plus raisonnable pour un homme de faire confiance à son Créateur? Ainsi la foi exclut la vantardise humaine. Et ça, c'est la seule chose qu'une personne puisse faire sans faire une bonne œuvre. Et cela afin qu'elle puisse penser qu'elle lui a donné droit au ciel pour sa bonne conduite. Romains 3, verset 27. Vous voulez dire alors que nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres? Eh bien, c'est ce que nous dit la Sainte Bible. Non pas sur le principe des œuvres, afin que personne ne se glorifie, est-il dit dans Éphésiens, chapitre 2, verset 9. Pourquoi l'homme ne pourrait-il pas être sauvé en faisant des bonnes œuvres? Voyez-vous, l'homme est un pécheur. Et tout ce qu'il fait est donc taché, qu'il le veuille ou pas, par le péché. Alors le mieux qu'il puisse faire c'est comme des vêtements souillés aux yeux de Dieu. Tout ce qu'il va entreprendre sera considéré un peu comme un vêtement souillé aux yeux de Dieu. Notez Ésaïe, chapitre 64, verset 6. Mais supposons que je puisse mener une vie parfaite à partir d'aujourd'hui, et cela jusqu'à la fin de mes jours. Ne serais-je pas sauvé alors ? Eh bien non, essayez de comprendre. Pourquoi vous ne le seriez pas ? C'est parce que Dieu exige également ce qui s'est passé avant. Vos péchés passés doivent en quelque sorte être effacés avant que vous puissiez entrer dans la présence de Dieu. Et j'en sais quelque chose. Ecclésiaste, chapitre 3, verset 15. Vous voulez dire alors que des personnes cultivées, très convenables, et qui se respectent, ne vont peut-être pas au ciel. Eh bien, voyez-vous, les seules personnes qui vont au ciel sont celles qui reconnaissent qu'elles sont pécheurs et qui sont assez humbles pour confesser Jésus-Christ comme étant leur Seigneur et leur Sauveur. Saint Matthieu, chapitre 21, verset 31. N'y a-t-il pas certaines personnes qui ne sont pas assez bonnes pour le ciel et qui ne sont pas assez mauvaises pour l'enfer? Eh bien non, car il n'existe que deux catégories de gens, non pas trois ou quatre. Ce sont ceux qui sont sauvés et ceux qui ne le sont pas. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. Eh bien alors, n'y a-t-il certaines personnes qui sont trop mauvaises? Est-ce qu'il existe des personnes qui sont trop mauvaises pour être sauvées? Non, non, non. Je faisais partie de ceux-là. Donc l'invitation de l'Évangile est entendue et étendue à toute l'humanité. Et cela, à quiconque pourra y venir. Notez Ésaïe 55, verset 7, ainsi que 1 Timothée chapitre 1, verset 15, et Hébreux chapitre 7, verset 25. Donc une personne, on pourrait poser la question, doit-elle pas mettre de l'ordre correctement dans sa vie avant qu'elle puisse être éventuellement sauvée? Eh bien, aussi longtemps qu'elle pense qu'elle peut mettre de l'ordre dans sa vie, elle ne ressentira pas le besoin du Sauveur, puisqu'elle pense de pouvoir tout faire par elle-même. Mais elle devrait venir simplement, humblement, à Christ, telle qu'elle est, telle que tu es maintenant, même si tu es sale, même si tu sors de Alcatraz ou de Sing Sing, tel que tu es, avec tous ses péchés et tout le reste. Et ainsi, tu peux recevoir le pardon et la paix. Ésaïe 1, verset 18, Saint Matthieu, chapitre 9, verset 13, Saint Luc, chapitre 19, verset 10. Pourrais-je être sauvé en suivant l'exemple de Jésus? Voyez-vous, la vie de Jésus était absolument sans péché. Or, un simple homme n'est pas capable de suivre cet exemple-là. De plus, l'unique raison pour laquelle Jésus est mort, c'est parce que les hommes ne pouvaient pas être sauvés d'une autre manière. Premier épître de Pierre, chapitre 2, verset 24. Si croire en Jésus est la bonne manière, alors pourquoi la grande majorité des gens refusent de l'accepter? Chers amis, voyez-vous, Satan a aveuglé l'esprit de tous ceux qui ne croient pas, de crainte que la lumière du glorieux évangile de Christ puisse luire sur eux. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 4. Il y a donc une voie qui semble droite aux hommes, mais des voies de mort en sont, hélas, la fin. Proverbe 14, verset 12. Une personne pourrait-elle pas être sauvée en essayant d'obéir, par exemple, à la règle d'or? Non, non, non. Lorsque Jésus a dit « Faites aux autres comme vous aimeriez qu'ils vous soient faits », il parlait de ceux qui étaient déjà sauvés. Il n'a jamais voulu que ce soit la voie d'accès au ciel. Bien, ne pourrions-nous pas être sauvés en obéissant aux béatitudes ou en vivant d'après le serment sur la montagne? Eh bien, chers amis, une fois de plus, ces enseignements ont été adressés à ceux qui avaient déjà reconnu Jésus comme étant leur Seigneur. Pour y obéir, il faut la vie divine. Et une personne reçoit cette vie seulement lorsque elle est sauvée. Vous n'allez sûrement pas me dire qu'une personne ne peut pas être sauvée en gardant les 10 commandements. Eh bien, voyez-vous, personne ne peut vraiment accomplir ce qui est demandé par les 10 commandements. Romains 3, verset 20. Les 10 commandements ne furent-ils pas donnés par Dieu à son peuple? Bien sûr, c'est oui, ils l'ont été. Mais Dieu n'a jamais voulu qu'ils s'en servent uniquement comme un moyen de salut. Ça, c'est pas vrai. Notez Galates, chapitre 2, verset 16, et chapitre 3, verset 11. Alors, pourquoi Dieu a-t-il donné les commandements? Ils furent donnés pour montrer au peuple quels pécheurs ils étaient, tout comme une ligne droite fait ressortir une ligne courbée. Ainsi la loi montre aux hommes combien ils se sont éloignés du critère de perfection de Dieu. Romains 5, verset 20 et Galates 3, verset 19. Quelqu'un a-t-il observé les lois parfaitement? Le Seigneur Jésus-Christ, c'est vraiment le seul qui a pu observer la loi parfaitement, et personne d'autre. Alors, ne sommes-nous pas sauvés par son observance de la loi? Non, non, non. Nous ne pouvons pas être sauvés que par sa mort. Nous pouvons être sauvés que par sa mort, c'est ce que je veux dire, et pas par autre chose. je répète, nous pouvons être sauvés que par sa mort à la croix où il a versé son sang pour tous nos péchés. Son ensevelissement et sa résurrection ont été importants. Et par la loi, nous sommes condamnés et maudits, selon Galates chapitre 2, verset 21. Donc si un homme pouvait observer la loi toute sa vie, ne serait-il pas ainsi sauvé? Voyez-vous, un tel homme n'aurait pas besoin d'être sauvé. Pourquoi? Parce qu'il serait un être parfait. Supposons qu'un homme puisse observer 9 des 10 commandements à la perfection, serait-il sauvé? Eh bien non, car la loi exige une obéissance continuelle et totale. Si une personne enfreint un seul commandement, il est coupable de tous, selon Jacques chapitre 2 verset 10. Alors quel est le châtiment? Pour n'avoir pas observé la loi, c'est la mort. Et la mort maintenant est pour toujours. Galates chapitre 3 verset 10. Les 10 commandements n'étaient-ils pas faits pour des gens bons? Eh bien non. La loi n'est pas pour le juste, mais la loi est pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans pitié et les profanes, ainsi que pour les meurtriers des pères et des meurtriers de mères, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec d'autres hommes, les parjurés, et s'il y a quelques autres choses qui soient opposées à la sainte doctrine. Notez 1 Timothée, chapitre 1, versets 9 et 10. Me semble-t-il raisonnable que nous soyons sauvés par la foi seule et non par la foi plus les bonnes œuvres? Eh bien, voyez-vous, l'Écriture dit, il nous sauva, non pas sur le principe d'œuvres accomplies en justice, que nous eussions faites, mais uniquement selon sa propre miséricorde. Tite, chapitre 3, verset 5. N'est-il pas dit quelque part dans la Bible que la foi sans les œuvres est morte? Eh bien oui, cela est dit dans Jacques, chapitre 2, verset 20. Alors cela ne montre-t-il pas que le salut est obtenu par la foi plus les œuvres? Eh bien non. Non. L'enseignement de ce passage est qu'il se peut qu'un homme dise qu'il a la foi, mais s'il n'a pas de bonnes œuvres, cela montre qu'il n'a jamais vraiment été sauvé, car ce genre de foi n'a jamais, jamais sauvé personne. Alors quel genre de foi peut me sauver? C'est le genre qui n'est pas seulement une réponse venant des lèvres, mais qui vient droit du cœur et qui a pour conséquence une vie nouvelle qui est remplie ensuite de bonnes œuvres. C'est une fois sauvé que vous pratiquerez les bonnes œuvres. Alors vous voulez dire que les bonnes œuvres suivent le salut, mais qu'elles ne l'assurent pas vraiment? Eh bien oui, ça c'est juste. Voyez-vous, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés afin que nous puissions pratiquer les bonnes œuvres. C'est là la différence. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 et 10. Veuillez bien noter cela soigneusement, parce qu'il y a souvent des malentendus à ce sujet. Je répète, nous ne sommes pas sauvés par les bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés afin que nous puissions les pratiquer. N'est-il nécessaire de se joindre à une église pour être sauvé? Eh bien, ce n'est pas parce qu'une personne va se joindre à certaines églises ou certaines cathédrales qu'elle sera automatiquement sauvée. Car tu dois d'abord naître de nouveau. D'abord être né de nouveau. Même si tu vas tous les jours à l'église, tu dois d'abord naître de nouveau. Mais Dieu ne s'attend-il pas à ce que nous nous joignions à une église? Eh bien, chaque fois qu'une personne est sauvée, elle va devenir un membre de l'église véritable qui est composée de tous les vrais croyants dans le Seigneur Jésus. Ensuite, elle trouvera, bien entendu, une église locale où Christ est reconnu comme étant la tête et où la Sainte Bible est acceptée comme étant l'unique parole de Dieu inspirée et notre guide absolument suffisant dans toutes les questions de foi et de morale. Le fait que j'ai été baptisé étant enfant ne signifie-t-il pas que je suis sauvé? Eh bien, le baptême n'est pas du tout le sauveur. Seul Jésus-Christ peut sauver, selon Saint Jean, chapitre 14, verset 6. Mais les gens devraient-ils pas être baptisés? Eh bien, ceux qui sont nés de nouveau devraient être baptisés. Cependant, il n'existe aucun récit dans tout le Nouveau Testament de personnes qui ont été non sauvées, qui auraient été baptisées. Alors, je ne suis pas non plus sauvé lorsque je participe à la Sainte Cène, à la Sainte Communion. Eh bien non, oui, je dis non, une fois de plus, la Sainte Cène, elle n'a pas été voulue que pour ceux qui sont déjà des croyants, c'est-à-dire, elle a été voulue, c'est ce que je veux dire, que pour ceux qui sont déjà des croyants et non pas pour ceux qui ne sont pas des croyants. Je répète pour que ce ne soit pas mal compris. La Sainte Cène a été voulue pour tous ceux qui sont déjà des croyants nés de nouveau dans le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est ni correct ni biblique de donner la Sainte Cène à n'importe qui, à des personnes non sauvées. Ce n'est pas biblique. Voulez-vous dire que les réunions à l'église, les dons de charité, la participation aux offrandes et les observances similaires ne vont pas m'aider pour mon salut? Eh bien, elles ne vous seront, hélas, d'aucune aide, car la seule chose qui vous aidera, c'est de venir humblement à Christ en tant que pécheur, de vous repentir de vos péchés et de vous confier en lui comme étant votre unique espoir d'aller au ciel. Actes, chapitre 4, verset 12. Et nous terminons donc par cela en prions ensemble. Reste avec nous, ô Seigneur, car le soir approche, le jour est sur son déclin. Tu dis veillez et priez en tout temps, afin que vous ayez la force de paraître debout devant le Fils de l'homme. Que celui qui croit être debout prenne garde qu'il ne tombe. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. La nuit est venue et les ténèbres, et du fond de l'abîme, nous t'invoquons. Oui, nous t'invoquons du fond de l'abîme, ô Éternel, car toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur nous et nous sommes tombés. Mais nous serons debout, debout dans les porches de Jérusalem. Amen. Chers amis, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Amen. Et à bientôt à nouveau pour la suite de cette série. Au revoir, très chers amis.